Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Pierre Valade, qui est chez Microsoft, qui est notamment connu pour être le fondateur de Sunrise. Salut Pierre.
Salut Mathieu, ça va ?
Très bien, et toi ? Écoute, je suis ravi, on est à Brooklyn, donc dans un quartier qui s'appelle Dumbo ouais. Que je connaissais absolument pas. Qui est,
bienvenue.
Ouais, très beau, dans un appart très zen. Écoute, je suis ravi de te voir. Est-ce que je peux te demander de te présenter, Pierre ?
Oui, je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans. Si on fait l'histoire un peu du début jusqu'à la fin, je suis né à Paris avec mon frère jumeau Edouard. Et on a grandi à Paris. Ensuite, moi, j'ai fait des études d'ingénieur, donc beaucoup de maths, beaucoup de physique. Une école d'ingénieur ensuite à Paris aussi, ou juste à côté de Paris, les ponts. En dernière année, j'ai fait un master de design en partenariat avec Stanford, qui était... un moment assez important dans ma formation, parce que je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment trouvé quelque chose qui venait de l'école, qui m'intéressait et que je découvrais via l'école. Donc ça, c'était un moment assez beau avec la D-School.
Parce qu'avant, ça t'intéressait pas ?
Pas vraiment, en fait. Je pense que j'étais suffisamment bon en maths et en physique pour arriver là où je suis arrivé, mais... Je prenais plus de plaisir à faire de l'informatique à côté, et c'était ça que je voulais faire. Et ça, c'était la première fois où à l'école, j'ai découvert quelque chose qui aurait peut-être pas été sur ma trajectoire normale, que j'aurais eu en explorant juste, on va dire, Internet. Et c'était sur le design et ce qui s'appelle le design thinking, qui était peut-être un truc qui était dans ma tête depuis longtemps, mais que j'avais pas réalisé, était en fait une discipline qui, aux États-Unis notamment, en Californie, avait été complètement théorisée et implémentée depuis plus de 40 ans, que c'était la doctrine de beaucoup de boîtes que je respectais. Et en fait, du coup, en faisant ce programme-là, qui s'appelle le Master ME310 en dernière année d'école, donc je devais avoir 22 ans, j'ai découvert ce que c'était que le design et comment est-ce qu'on faisait des produits avec cette méthodologie justement qui s'appelle le design thinking, qui est en fait hyper connue. Il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits par IDEO, des boîtes comme IDEO, qui travaillent pour Apple, des choses comme ça. Et j'ai découvert cette méthodologie-là, et c'est vrai que c'était, je trouve, la première fois à l'école. Après, à l'école, on apprend plein de choses. On apprend au-delà des matières, on apprend la vie avec d'autres personnes, etc. Il y a plein d'expériences comme ça qui sont très positives. Mais sur le contenu, vraiment, sachant que je voulais pas faire des maths et de la physique à haut niveau, et que la sélection par les maths et la physique, finalement, peut être hackée d'une manière. Parce que je pense que j'ai eu une meilleure école que ce que je devais avoir, juste parce que j'ai compris comment les concours fonctionnaient. Mais ça, par contre, c'était vraiment une connaissance théorique que j'ai appris à l'école, avec ce master qui était entre justement l'école des ponts et Stanford, qui était vraiment un truc qui m'a marqué et qui était en moi, mais qui a été accéléré par le processus de cette année qu'on a faite sur ce programme.
Et est-ce que tu peux nous expliquer
C'est un peu une méthodologie, un framework pour développer des produits qui part de l'idée qu'il faut écouter les utilisateurs. Donc, par exemple, si tu veux faire une pince pour les chirurgiens qui veulent faire des opérations à cœur ouvert, au lieu de rester dans ton bureau et faire des PowerPoints sur ce qu'est l'avenir de la chirurgie, tu vas dans un hôpital, tu regardes 10 opérations de chirurgiens qui font des opérations à cœur ouvert, tu regardes comment ils manipulent les outils. Ensuite, quand ils sortent de la salle, le bloc, tu leur demandes qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Tu parles aux infirmiers, aux infirmières qui étaient sur place, et tu essaies de comprendre d'un point de vue les besoins de l'utilisateur. Qu'est-ce qui pourrait être créé comme nouvelle solution, mais pas dans un truc abstrait, mais dans vraiment à travers le travail de ce qu'ils appellent le need finding, de comment est-ce qu'en interviewant et en observant des gens, je comprends des besoins dans leur contexte. Et après, il y a par exemple une deuxième phase qui s'appelle la phase de prototyping, où là, l'idée, c'est de générer un maximum d'idées et de les tester le plus rapidement possible. Par exemple, dans le cas d'une pince de chirurgien, on voudrait essayer de trouver un moyen de prototyper ça sans avoir à faire des vraies opérations, mais effectivement à faire des tests, peut-être des étudiants qui utilisent ça sur des cœurs artificiels, comment est-ce qu'on pourrait introduire tel ou tel type de pince. J'ai aucune idée parce que je suis pas chirurgien, mais justement c'est l'idée de se passer du point de vue de quelqu'un d'autre et ensuite de prototyper beaucoup de solutions très rapidement sans faire des plans de 6 mois sur la comète, mais en disant il faut essayer un maximum de prototypes en un minimum de temps et après boucler la boucle avec les utilisateurs qui l'utilisent et voir si ça leur convient ou pas. Donc du coup c'est un process de développement hyper rapide de produits basé sur la réalité versus des process compliqués et longs de développement de quoi que ce soit d'ailleurs, qui sont basés souvent sur plus des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que la moyenne dans une salle de réunion, qui font des points sur ce que le futur va être. Mais le problème c'est qu'entre la réalité et le souhait des gens, la réalité gagne toujours. Et donc cette méthodologie, je pense qu'elle était hyper pratique et pragmatique pour réussir à designer des produits et à mettre sur le marché des produits qui répondent à des besoins d'utilisateurs.
Et on parle de mission statement, de persona également.
Il y a ça aussi, voilà. Donc, par exemple, sur certains produits, par exemple, nous, on avait travaillé à l'époque sur un produit pour améliorer les réseaux sociaux chez les personnes âgées ou dans la famille. Donc il y a différents types de personas. Par exemple, il y a les grands-parents qui sont connectés et qui peuvent encore utiliser leur capacité physique ou intellectuelle pour communiquer via un téléphone. Il y a d'autres personas, des gens qui sont isolés. Et donc en fait, on segmente les gens en différents types de catégories en fonction du problème et on essaie de voir si l'outil correspond à l'un plus qu'à l'autre. Et du coup, ça nous permet de aussi raconter des histoires, parce que les personas, c'est des gens. Souvent, on prend les interviews qu'on a fait avec les vrais noms et les prénoms des personnes et on les met dans l'histoire de Pierre qui est retraité à tel endroit, qui parle à ses fils que 2 fois par an, à tel moment, comment est-ce qu'on améliore la relation, etc. etc. Donc, c'est tout ce process-là qui est hyper intéressant et qui, en fait, est... complètement. Enfin, nous, on avait l'impression d'être des extraterrestres à l'école, parce que l'école, c'est une école hyper classique de maths et physique. Et en fait, ce processus-là, il est beaucoup plus créatif et beaucoup plus comment est-ce qu'on va dans la vraie vie. Et on sort des classes et de la théorie et on va interviewer des gens, regarder des gens, comprendre ce qu'ils nous disent, comprendre même ce qu'ils nous disent pas, mais quand on les voit faire quelque chose, ce que l'observation nous dit. Et comment est-ce qu'après, on prototype un maximum de choses. Et on se gourre du coup 9 fois sur 10, mais c'est pas grave parce que on a raison une fois et on est sûr que la fois on a raison, c'est validé par la réalité et pas juste des opinions des uns et des autres qui dans une salle de réunion qui n'ont aucune valeur.
Ce qui est hyper intéressant et que nous on peut avoir de temps en temps du mal à faire. Alors là je parle plutôt sur une partie d'agence pour des clients, parce que ce que tu expliques là, c'est de se planter 9 fois sur 10, c'est pas forcément facile à accepter pour un client. Quand t'es parti toi dans ton projet, dans ton aventure sur quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu as dans ta culture, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident
je pense que c'est une question de comment est-ce qu'on set les expectations. Si on dit qu'on va être prévoir le futur et qu'on va avoir raison 100% du temps, je pense qu'il faut mieux jouer l'auto. Si on dit on va se gourer 9 fois sur 10 mais la fois on va réussir, ça va être un vrai succès, je pense que tout le monde est clair avec le fait. Après c'est sûr que si on nous dit oui mais vous allez vous gourer 9 fois sur 10, est-ce que ça voulait dire que vous allez prendre 10 fois plus de temps parce que vous allez faire en gros un truc tous les 6 mois, ça marche pas non plus, parce que du coup le projet dure 5 ans. Mais si on se dit on va se gourer 10 fois ou 9 fois sur 10 en un temps qui est limité et donc du coup on reste dans les délais du projet, en fait ça pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une relation un peu plus cool et relax avec l'échec.
Et ouais.
L'échec ça veut rien dire d'ailleurs, mais bon.
C'est une étape. Oui,
voilà, exactement, c'est ça. Exactement.
Et c'est vrai que alors aujourd'hui, j'ai regardé d'ailleurs encore récemment, nous on travaille autour de méthodes de design thinking pas mal maintenant. On n'a pas forcément été formé comme tu l'as été là-dessus, et c'est vrai qu'en France ça reste quand même, je regardais récemment un MOOC par exemple du MIT, on peut trouver des tas de choses, des tas de ressources en ligne sur le design thinking, mais en France c'est quand même pas quelque chose qu'on promeut énormément.
Ouais, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde parle anglais et qu'on est un click away from la meilleure vidéo de Stanford ou la meilleure formation sur le sujet ou sur le bouquin qui est accessible. Et donc ça, c'est... En fait, moi, j'essaie même pas de convaincre les gens que le design thinking, c'est mieux que l'autre. C'est juste que les ressources sont là et les gens qui se sentent attirés par ce mindset de vouloir faire des choses et de prototyper un maximum de réponses à des questions et de prendre la meilleure se retrouvent naturellement attirés par ça. Et les autres peuvent continuer à faire je creuse un tunnel pendant 6 mois et puis 6 mois, je demande à une personne si, en fait, ce que je fais, c'est intéressant. Et puis, j'ai un peu tiré à pile ou face et si ça marche, tant mieux pour eux. Ça veut pas dire qu'ils seront d'ailleurs que ça n'a pas marché. Ça veut juste dire que pour moi, qu'ils minimisent la probabilité que leurs choses soient exactement dès le premier coup un gagnant.
Ce qui valide aussi le fait que souvent il y a des gens qui créent leur entreprise et qui travaillent complètement dans leur coin en secret, qui veulent rien dire à personne, qui voilà. Et ça, c'est quand même c'est pas voué à l'échec à 100% des cas évidemment, mais c'est quand même potentiellement pas une bonne manière de d'appréhender une problématique et surtout un product market fit.
Je pense que ça dépend des cas, mais dans le cas effectivement où on peut prototyper d'une manière rapide, par exemple si on fait une application sur iOS ou un autre type de produit où les technologies sont bien maîtrisées, on a tout intérêt à essayer de réduire le temps entre on a eu l'idée et le moment où on le teste. Parfois ça peut durer une semaine, parfois ça peut durer même 4 heures, on fait une landing page et on se rend compte qu'il y a une demande ou pas pour le sujet. Et effectivement, moi c'est mon approche de faire ça. Juste parce qu'une question, c'est une question d'optimisation du taux de succès. Après, il y a des gens qui peuvent passer 6 mois sur le tunnel et réussir. Ça veut pas dire que parce qu'ils ont des chances en probabilité d'être moins successful, ça veut pas dire que les chances sont égales à zéro. Donc, oui, ça peut tout à fait aussi marcher. Parfois, même, il y a peut-être des projets où ça fait du sens de rien dire à personne. Dans la majorité des cas, je crois qu'il faut mieux essayer de construire le truc le plus tôt possible. Même parfois, s'il faut faker certaines parties et d'avoir la validation de la réalité du terrain, donc de ceux qui doivent au final utiliser le produit ou l'acheter.
Et du coup, toi, tu avais appris à coder à cette époque-là,
moi, ça
en
fait
école.
Depuis, j'ai mon premier ordinateur depuis 95. D'accord. Donc, je suis né en 86, donc ça fait 9 ans. Donc, j'ai pas attendu l'école pour apprendre à programmer. C'était un truc que j'ai eu la chance d'avoir très tôt à la maison et j'ai passé beaucoup de temps dessus. Donc, c'était un peu le bon endroit au bon moment, quoi.
Et tu programmais quoi, jeune?
Jeune, on faisait des sites internet et on bidouiller des jeux vidéo.
Tu faisais ça avec des amis
ou... Je faisais ça avec un ami, Edouard, qui habitait de l'autre côté de la rue et on jouait ensemble sur des jeux vidéo. Et on bidouillait aussi des sites internet ensemble, ouais.
Que vous faisiez pour vous, que vous vendiez
Je me souviens plus de tout. Un des sites qu'on a fait ensemble, qui était un des premiers projets un peu plus significatifs, c'était un site pour faire des vidéos qu'on mettait en ligne. Pour apprendre aux gens à se servir de l'informatique. Donc, on faisait des vidéos de formation sur comment dézipper un fichier, qui était à l'époque un sujet, ou comment configurer Outlook, ou ce genre de choses. Donc, on faisait des vidéos, donc des screencasts, avec notre voix d'ado prépubère, qui expliquait comment est-ce qu'on configure un compte SMTP sur Outlook.
D'accord.
Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que, en réfléchissant au sujet, bon, le projet était intéressant en soi, mais ce qui est marrant, c'est à quel point on s'aperçoit qu'en fait, en faisant un sujet, donc en faisant un projet, on s'aperçoit qu'en fait, il y a d'autres, il y a des problèmes qui arrivent, et je vais donner l'exemple dans celui-là, qui sont en fait des sujets plus intéressants. Et par exemple, nous, ce qu'on a vu, mais a posteriori, en fait, c'est que ce qu'on a appris en faisant ce projet toutsavoir.net, c'est pas est-ce qu'il y a un besoin pour des vidéos d'informatique pour former des gens, ça à la limite, il y en avait un, mais c'était le fait que les gens ne pouvaient pas regarder nos vidéos parce qu'il n'y avait pas encore Flash qui supportait les vidéos. Donc, on devait installer un plugin dans Internet Explorer qui défuite un peu le purpose parce qu'en gros, les gens arrivent ici pour apprendre à dézipper un truc et on leur demande d'installer un plugin. Mais donc, on n'avait pas encore pris ce recul ou cette vision du monde où on dit « Ah là, en fait, on stumble sur un truc qui est peut-être plus gros que ce qu'on pense, qui est comment est-ce qu'on upload des vidéos sur Internet et que les gens puissent le regarder avec un minimum de friction, c'est-à-dire faire Dailymotion ou YouTube, en fait.
Oui. »
Donc ça, c'est intéressant de looking back, de regarder « Ok, pourquoi est-ce qu'on a zappé cette idée-là alors qu'en fait, c'était un vrai problème qu'on avait et on l'a pas du coup fait. On a dit « Installer le plugin et puis sinon, c'est tant pis. » Et l'autre truc qu'on n'a pas vu qui était intéressant, on avait plein de trafic qui arrivait de chez Google sur nos forums, parce qu'on avait des forums où les gens s'expliquaient. Enfin, en gros, celui maintenant qui a gagné en France, c'est comment ça marche. Mais nous, à l'époque, on était devant comment ça marche. Et j'étais convaincu que d'avoir du trafic de Google, c'était en fait une faiblesse, parce qu'on dépendait de quelqu'un. Et en fait, j'avais pas du tout compris le jeu qui allait se passer de la SEO et du fait que Google allait devenir le portail, ce qui n'était pas encore défini à l'époque, le portail d'entrée sur Internet. Et moi, je voulais que les gens tapent tout-savoir.net comme marque.
La clé d'entrée en direct, quoi. Ouais.
Et en fait, les gens arrivaient beaucoup sur le forum, parce que du coup, il y avait beaucoup plus de contenu qui était généré et indexé par Google. Et quand je regardais les stats de, en gros, source d'entrée et je voyais le referral de google.fr qui était extrêmement élevé, ça m'énervait. Je pense que c'est pas une bonne bataille de toute façon de lancer une boîte qui dépend de la SEO, mais je pense qu'on aurait pu être plus intelligent sur l'opportunité que ça voulait dire sur ça ou sur d'autres sujets. Et moi, je l'ai minimisé en disant non, il faut qu'on travaille sur notre marque, et c'est notre marque qui doit gagner.
SEO, je précise, c'est Search Engine Optimization, donc c'est le référencement naturel, c'est le fait d'apparaître naturellement sur Google versus du référencement potentiellement payant ou autre. D'accord. Et du coup, oui, donc c'est intéressant parce que t'as quand même commencé à faire tout ça. T'avais quel âge sur tout savoir?
Je pense que c'était 97, donc...
11 ans?
11 ans, un peu plus. Non, ça devait être un peu plus tard. Faudrait que je regarde quand est-ce qu'on a acheté le nom de domaine.
Ouais.
Peut-être un peu plus tard, ouais.
Il existe toujours?
Je pense, ouais. Je sais plus. C'est peut-être, je sais plus si c'est Edouard ou c'est moi qui l'avons. Edouard l'a repris, je crois. Donc, je sais plus exactement où ça en est.
D'accord. Et donc tout ça t'a mené à une école d'ingénieur, à du design thinking. Et ce que je trouve intéressant dans ce parcours, c'est que tu arrives à un moment où tu cumules des métiers qui sont souvent assez silotés, c'est-à-dire que des expertises où généralement on va avoir dans des équipes un type qui va réfléchir plutôt produit, projet, l'autre qui fait le design et ça je pense que c'est vraiment une de tes forces
en tout cas c'est pas une faiblesse effectivement de pouvoir dialoguer avec des ingénieurs et de comprendre jusqu'à un certain point il y a des ingénieurs bien meilleurs que moi et dans Sunrise l'équipe technique était bien plus forte que ce que je peux faire mais ça me permet de comprendre et de parler le même langage et de savoir est-ce qu'une deadline est crédible, est-ce qu'il faut choisir telle ou telle architecture et d'avoir un avis constructif dans la discussion. Et c'est sûr que c'est plus agréable de savoir, d'avoir ce côté technique qui me permet aussi de, par exemple, de faire la première version d'une partie du software pour Sunrise et d'être indépendant de ce point de vue-là et d'avoir aussi le côté après produit, expérience utilisateur, comment est-ce qu'on fait quelque chose que les gens veulent, comment est-ce qu'on se positionne sur le marché. Et ça, je pense qu'effectivement, c'était un point positif et c'est ce que j'essaie d'avoir dans des projets futurs, c'est de quand même toujours comprendre pas aller jusqu'au moment où comprendre si comment est-ce qu'une exécution d'un CPU fonctionne, mais comment est-ce qu'on comprend suffisamment de principes, parce que c'est toujours des couches en fait, c'est comme la géologie, il y a plein de couches qui sont entassées les unes sur les autres, on n'a pas besoin de revenir jusqu'au noyau de la Terre pour faire un site internet et faire une startup, mais comprendre un maximum de couches sous-jacentes permet je pense d'avoir un avis plus aiguisé sur certains sujets. Et comme il se trouve que fondamentalement ce qu'on fait c'est du software, Sunrise, Software.net, Yahoo, Facebook, etc. Ou Apple, enfin tout ce qu'on veut, c'est du software. C'est plus pratique effectivement d'avoir cette connaissance-là que d'arriver sur le terrain et de pas savoir jongler, de pas savoir d'avoir jamais joué au foot, quoi.
Toi, c'est ton trip hein, quand même, ça, d'apprendre.
Ouais, je pense que si on n'apprend pas, on régresse, quoi. C'est pire que rester sur place. Et
ouais, mais
je vois pas l'intérêt de continuer à faire la même chose. Et au-delà de ça, je pense que les gens qui sont ambitieux ne restent jamais sur le même sujet. Donc, si on veut aussi s'entourer, au-delà même de juste soi-même, si on veut s'entourer de gens qui sont ambitieux et si on veut les attirer sur nos projets et si on veut les garder sur nos projets, il faut aussi comprendre que les gens sont bons sur X à un moment donné, mais que les gens bons sur X à un moment donné veulent devenir bons sur Y dans 5 ans. Et donc, comment est-ce qu'on aussi comprend ce mindset et on leur fait une trajectoire qui leur dit, bah oui, mais il faut quand même aujourd'hui que tu restes bon sur X parce que c'est hyper important pour la boîte. Mmh. Et je comprends ton besoin personnel de curiosité intellectuelle d'aller sur Y et on va construire un chemin pour y arriver.
Oui, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment reproduire, je sais pas, ils vont construire un super immeuble, puis ils vont se dire, bon, ça j'ai compris, j'ai coché la case, je vais le faire 20 fois, et puis...
Moi, dans mon expérience, les gens les plus ambitieux que je connaisse sont aussi les plus curieux.
Mmh, je sais, d'accord.
Mais c'est même pas ambitieux, en fait, c'est même pas le bon mot, mais les gens les plus bons dans un sujet veulent découvrir d'autres sujets assez rapidement, parce qu'ils considèrent que ça amènera à probablement plus de chances de réussir leur projet global c'est des technologies pour faire des trucs et donc en général ils veulent maximiser le nombre de cordes sur leur arc voilà pour arriver à satisfaire leur curiosité intellectuelle mais aussi à avoir plus de chances pour réussir un projet dans le futur. Ouais.
Et si je reviens sur alors il y en a probablement plus mais trois tes belles expertises qui seraient la tech, le design et le produit, qui sont très liées. Toi, tu te définirais meilleur dans lequel de ces trois-là?
euh, Je pense que je suis là où je suis le meilleur. Je pense que c'est d'en comprendre comment assembler des bonnes équipes. Parce qu'au final, c'est le nerf de la guerre, en fait. Comment est-ce qu'on assemble et comment est-ce qu'on fait travailler les meilleures personnes ensemble, quel que soit le sujet, en fait. Et donc moi, je suis assez sujet agnostique au sujet. Pour moi, ma qualité, c'est de pouvoir raconter des histoires et des visions pour que les gens qui sont les plus compétents, les plus motivés, les plus ambitieux, ce qui n'est pas forcément lié d'ailleurs avec leur degré d'expérience sur le sujet, aient envie de travailler sur ce sujet-là. Je trouve qu'aujourd'hui, l'informatique, les applications iPhone, demain, ça sera du machine learning, après-demain, ça sera encore d'autres interfaces homme-machine. Enfin, tout ça, ça changera en fait tous les 5 ans.
Oui.
Et donc, si on va dans cette industrie, on doit savoir qu'il va falloir en permanence apprendre et être capable de revenir. Celui qui savait faire du Flash en 2000, c'était le King of the World.
Oui.
Ou peut-être en 2005 ou en 2007, quand tous les jeux Facebook décollaient en Flash. En 2013, s'il avait tout misé là-dessus, il avait que ses yeux pour pleurer.
Oui.
Donc, il faut toujours arriver à être capable de juste repartir de zéro et d'apprendre. Et au final, on n'est pas plus bête que les autres. Hein. Donc, apprendre quelque chose, c'est juste mettre du temps dans son calendrier pour apprendre quelque chose, avoir la patience de retravailler sur quelque chose où on n'est pas bon, et puis continuer ça jusqu'au moment où on arrive au même niveau que quelqu'un d'autre. C'est pas sorcier.
On parlera de ton orgueil, justement. Ça m'intéresse de voir un peu comment tu mets du temps dans ton calendrier pour apprendre. Revenons juste sur ton parcours un petit peu. Moi, je t'ai connu... Je ne sais pas si tu te souviens qu'on a déjeuné ensemble il y a une bonne dizaine d'années dans un café qui s'appelle Le Père et Fils, d'ailleurs.
Absolument.
Ouais. Et tu étais chez Foursquare, je crois.
Il y a 10 ans.
Petite dizaine, peut-être.
Ouais, ouais, je, 9, ouais, à 2009, mon avis, peut-être. Un peu en 10 ans, ouais, effectivement, ouais. Ouais, à ce moment-là. Ouais, ouais. Absolument. Ouais, ouais.
Et t'as fait quelque chose avant Foursquare, je crois. T'es rentré chez Foursquare par un biais assez fun, un hackathon ou un truc comme ça.
Ouais, j'avais fait une application qui utilisait leur API.
Ouais.
Je veux traduire API, mais ouais.
C'est l'API, c'est une comme si on sur une application ou sur un software, c'est une sorte de prise sur laquelle on peut se brancher, voilà, virtuelle pour récupérer des données ou en envoyer.
Exactement. C'est exactement ça. Et donc, je voulais vraiment travailler pour eux, pour Foursquare. Et il se trouvait qu'ils organisaient un hackathon à New York et que moi, j'étais là à ce moment-là. Et le meilleur moyen, je trouve, de se faire recruter dans une boîte, c'est de se distinguer de la masse. Et pour se distinguer de la masse, du coup, j'avais créé une application qui s'appelait Agora, qui permettait de, quand on arrivait dans un lieu, ça regardait justement avec Foursquare les gens qui étaient aussi dans ce même lieu. Et ça nous suggérait des gens à rencontrer avec qui on avait des intérêts en commun. Et le proxy pour avoir des intérêts en commun, c'était Twitter. En gros, si, c'est assez facile de voir que si toi et moi, on suit les mêmes gens sur Twitter, à part les gens qui ont beaucoup de followers, genre Britney Spears et Barack Obama, qu'on enlève ces gens-là, mais qu'on suit du coup les mêmes comptes qui ont entre 5 et 5000 followers, ça veut dire qu'on est très proches, on a les mêmes centres d'intérêt, on s'intéresse au vin, on s'intéresse au foot ou on s'intéresse à l'informatique. Et donc, du coup, c'est un moyen de rencontrer des gens qui étaient potentiellement au même endroit que toi parce qu'ils avaient check-in récemment. Et du coup, c'est ça qui avait attiré leur attention. Et après, ils m'ont offert un poste dans leur équipe à New York. Et ce qui était intéressant, là, j'ai eu encore une fois de la chance, c'est que le poste, il était dans leur équipe design et pas dans leur équipe engineering, parce que j'avais pas vraiment le niveau pour arriver dans leur équipe engineering, même si j'avais codé un petit truc pour y arriver. Mais dans l'équipe produit, c'était vraiment du design, justement, d'expérience utilisateur, sur le mobile.
Alors, on préparait un peu tout ça tout à l'heure. Et tu me parlais de la chance. Je voudrais aussi qu'on parle de ça, parce que là, tu dis, j'ai eu de la chance, mais... La chance, t'as quand même codé un truc. Tu t'es dit, je voulais vraiment bosser pour eux. Je rappelle juste une chose, c'est que Foursquare, c'était une application. C'est tout. Je sais pas si ça existe encore.
Ça existe toujours encore. Ouais.
C'est que à l'origine, en tout cas, dans laquelle on faisait un check-in. Donc on disait, je suis à tel endroit. Et quand on avait le petit côté fun, c'est quand on avait check-in beaucoup un endroit, et ben on pouvait devenir le maire de l'endroit. Et voilà. On se battait pour être le mayor du café d'en bas, du bureau.
Père et fils.
Exactement.
C'est pour ça que t'étais là-bas ce jour-là.
Et donc ouais, t'es quand même, tu l'as forcé ce destin, cette chance. Enfin, alors t'as eu la chance d'arriver dans le design versus la tech, mais j'imagine que c'est pas un hasard non plus.
Non, rien n'est un hasard, mais ça reste quand même un facteur important dans tout ce qui se passe. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu confus entre leur succès et leur chance. Ils attribuent à leur qualité personnelle beaucoup plus de proportions qu'à la chance. Je pense que oui, effectivement, il faut travailler et il faut faire quelque chose. Enfin, il faut lancer un projet pour avoir la chance de que ça donne quelque chose. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est le facteur le plus important. En tout cas, ces facultés personnelles, à mon avis, ne sont pas le facteur le plus important dans le succès d'un produit. Et souvent, c'est un peu le problème que j'ai avec, du coup, c'est évidemment pas ce que je vais faire des gens qui donnent des conseils. Parce que souvent, ils sont juste un peu confus sur le fait qu'ils ont eu beaucoup de chance. Et du coup, ils donnent des conseils comme si, il fallait juste refaire ce qu'ils avaient fait. C'est pas très intéressant en général. Ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre comment est-ce que les gens raisonnent à des questions, plus que les réponses qu'ils donneraient à des questions.
Je suis d'accord.
Et ensuite, après, reconnaître juste qu'il y a beaucoup de chance dans tout ça. Donc, jamais donner des trucs définitifs et dire, voilà, dans ce cas-là, nous, ça a marché pour telle et telle et telle raison, mais il y a eu encore beaucoup de chance. J'ai eu la chance que mon visa soit accepté, que cette année-là, j'ai pu faire tel type de visa aux US, pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a encore beaucoup de trucs de calendrier qui dépendent ni de moi, ni de Foursquare, mais juste d'un contexte économique qui faisait qu'aux États-Unis, cette année, il y avait des visas qui étaient disponibles et l'année d'après, c'était plus le cas, donc ça aurait été compliqué. Enfin, je dis pas que je serais arrivé nulle part, mais en tout cas, il y a beaucoup de chance dans ce qui fait que à tel moment j'étais à tel endroit.
Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que je te suis totalement sur tout ça et sur les conseils aussi. Après, il y a des fondamentaux, sans être des conseils, je veux dire, l'apprentissage, la curiosité, le travail, tout ça, ça va potentiellement forcer un peu le destin. Et quand tu veux travailler pour une boîte, quand tu veux faire un truc, bon ben, tu peux aussi te débrouiller pour avoir un maximum de chance, en tout cas de statistiques qui font que.
C'est vrai.
Et d'accord. Et donc toi, tu es allé à New York avant ça même encore.
Ouais, je suis allé à New York juste après mon école d'ingénieur en fait. Je voulais travailler aux États-Unis depuis très longtemps. San Francisco, c'était un peu loin de la famille et c'est pas une ville que je trouve très rigolote pour des raisons plus personnelles sur la culture, sur l'art, sur toutes les activités pour les jeunes. Et comme du coup j'avais à peine 23 ans à l'époque, je trouvais ça plus rigolo d'aller à New York, d'être quand même aux États-Unis dans un endroit où il y a suffisamment de start-up et où la vie en général est je trouve plus excitante que celle de San Francisco.
D'accord. Donc ça, tu as fait ce choix très jeune.
Ouais.
C'était un stage de fin d'études ou un...
Un VIE.
Ouais.
Ils appellent un VIE. Donc
d'accord.
Une espèce de stage plus à l'étranger dans une boîte française qui était une boîte de jeux vidéo qui n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et on s'en est aperçu vite. Du coup, on a fait 3 mois. Enfin, moi, j'ai fait que 3 mois chez eux. Mais je voulais quand même rester à New York. Et donc après, je suis revenu. Et c'est là où j'ai fait le hackathon chez Foursquare. Et donc, je suis resté après... chez eux, et puis après, c'est là où on a monté Sunrise.
Qu'est-ce que tu as appris chez Foursquare ?
J'ai appris beaucoup de ce qu'il fallait pas faire, en fait. Je pensais y aller en apprenant beaucoup sur le design, parce qu'a priori, j'étais le premier européen qui arrive chez Foursquare. C'était la boîte la plus huppée. Je me suis dit, ils vont connaître tout sur le design, ils vont me mettre une grosse claque dans la tête. Et en fait, j'ai trouvé que les équipes étaient... En fait, ils ont eu beaucoup de chance dans ce qu'ils ont fait. Donc, les équipes étaient bonnes, mais pas forcément meilleures que quelque part d'autre. Ils ont juste été au bon endroit au bon moment. Et donc, j'ai pas tant appris sur le design. Par contre, j'ai beaucoup appris sur comment est-ce que la boîte grossit. On était 60 quand je suis arrivé. Quand je suis parti, ils étaient 150. Sur comment est-ce que la boîte grossit et comment à quel point le fait... que c'était pas une question que les dirigeants se posaient de comment est-ce que la boîte grossit, parce que c'est tellement facile d'être focus sur ce qu'on fait sans vraiment réfléchir à comment on le fait. Il y a le what et il y a le how. Et donc les gens se focalisent souvent sur qu'est-ce qu'on fait. On fait un produit qui va permettre de changer les couches plus facilement. Et ça c'est bien, c'est ce qu'on fait au début, on réfléchit à ce qu'on fait, et donc c'est très facile en tant que CEO, founder, d'être très... Foursquare, c'est un produit qui va faire ça, on va ajouter telle et telle feature, blablabla. Mais le problème, c'est que quand on grossit une équipe de 60 à 150, en fait, il faut aussi se poser plus de temps, peut-être même que ce qu'on fait, il y a plus de temps à se poser sur comment est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que la productivité des équipes soit proportionnelle avec le nombre de personnes qui sont dans l'équipe. Et en fait, si on réfléchit pas sur ce sujet-là, par défaut, ça va mal se passer. C'est-à-dire que par défaut, il va y avoir de plus en plus de réunions. Par défaut, les gens vont être frustrés que leur relation avec leur manager se passe mal, parce que du coup, il va y avoir des managers alors qu'avant, il n'y en avait pas. Par défaut, les décisions vont prendre du temps, parce qu'il va y avoir 3 personnes au lieu d'une personne sur une décision. Donc, en fait, par défaut, tout va aller dans la mauvaise direction. Et du coup, en étant 150, on faisait moins de travail qu'en étant 60 quand je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, les gens me disaient déjà, on fait moins de travail que quand on était 30. Donc, il y a clairement un problème de organisation d'équipe. Comment est-ce qu'on arrive à faire grossir une équipe de manière au moins proportionnelle en productivité? C'est-à-dire que si je rajoute une personne, ça me fait un plus 1 sur la productivité et pas 0.5 ou 0.4. Et ça, c'était pas le cas chez Foursquare. Et donc, j'ai appris, je pense, à quel point c'était important de réfléchir à ces sujets tôt. Parce que je pense que si on se pose la question trop tard de comment est-ce qu'on travaille, au moment où ça devient vraiment important, c'est-à-dire ça devient important dès le début, mais à l'époque, peut-être que je pensais pas ça, mais j'ai été vraiment marqué par le fait que quel que soit ce qu'on fait, ça peut être complètement cassé par la manière dont on travaille en tant qu'équipe.
Et alors, tu parles du what et du how, mais souvent, beaucoup de gens, je sais pas si c'est une mode, mais je pense pas, hein, je pense que c'est très important, disent qu'il faut commencer. Simon Sinek, je sais pas si tu as lu.
Ah, mais Simon Sinek, c'est ma bible, donc, mais ça, il faut l'avoir compris.
Le pourquoi, le why.
Ouais, alors, Simon Sinek, c'est, ça, c'est important, le why, mais c'est pas, quelque chose du day to day. Le why, c'est ce qu'on dit quand on veut recruter des gens, c'est quelque chose dans lequel on pense. C'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est hyper important. Mais ça donne pas des principes d'organisation, en fait. C'est ça que je veux dire. Et donc, si on se concentre que sur le what, ou même que sur le why, ou même les deux, le what et le why, on va savoir ce qu'on fait, on va savoir pourquoi on le fait, mais on va pas vraiment avoir réfléchi à comment est-ce qu'on fait les choses en tant qu'équipe. Et en fait, le how, quand je le mets dans ce contexte-là, c'est pas celui de Simon Sinek qui définit ça par autre chose. C'est vraiment comment est-ce qu'on s'organise en tant qu'équipe pour faire en sorte que l'output du collectif soit supérieur. C'est même pas supérieur, c'est que quand on rajoute des gens dans l'équipe, que l'output continue à augmenter. Et souvent, malheureusement, ce qui se passe par défaut dans les équipes, qu'on n'a pas réfléchi à ça, c'est qu'on rajoute des personnes. Et le problème, c'est que rajouter des personnes, souvent, ça diminue la productivité, ça frustre tout le monde. Je l'ai vu, et chez Foursquare, il y avait des ingénieurs qui étaient brillants, qui passaient leur temps dans des meetings l'après-midi pour savoir combien de temps ça allait faire de mettre des points sur des tickets, sur Jira, pour savoir combien de temps il fallait. Enfin, c'était vraiment frustrant pour tout le monde. Et du coup, ça m'a toujours vraiment, vraiment intéressé, même maintenant encore beaucoup, de comprendre comment est-ce qu'on structure des organisations pour que les gens travaillent dans les meilleurs contextes et soient le plus efficaces possible.
D'accord. Et ça, on y reviendra aussi parce qu'évidemment, ça m'intéresse. Du coup, Foursquare, on est en quoi en 2012, d'accord. Tu te dis à un moment, je vais monter mon truc. T'es chez Foursquare, tu t'as envie de te barrer, c'est quoi le déclencheur?
Je pense que du coup, c'est assez clair que la boîte va mal, parce que en fait, elle est mal organisée et ils n'arrivent pas à fixer ça. Et donc, je me dis, soit je reste et j'essaie de fixer le problème, soit je pars et du coup, c'est plus mon problème. Et donc, j'ai décidé de partir parce que ça m'intéressait plus de monter mon projet. Et en plus, j'avais eu la chance de rencontrer Jérémy, qui était on avait un ami en commun. Et Jérémy est arrivé chez Foursquare juste après que je sois arrivé.
Jérémy
Levan. Oui. Et c'était le meilleur designer que j'ai jamais vu sur Terre. Et donc, du coup, j'avais cette idée de réinventer le calendrier. Et réinventer le calendrier, ça voulait dire redesigner l'expérience utilisateur. Et donc, pour ça, il fallait avoir quelqu'un d'extrêmement talentueux sur le design au sens UI.
User interface. Design d'interface.
Voilà. Quoi, oui. Et ça, c'était le travail que Jérémy faisait chez Foursquare avec moi, parce qu'on travaillait sur la même équipe en duo. Et ça, on s'entendait hyper bien. Et donc, c'est devenu un super ami. Et donc, je l'ai, entre guillemets, motivé pour lancer un projet, lui prouver qu'il n'y avait aucun risque, parce que de toute façon, si on se plantait dans 3 mois, on retrouvait un job où on voulait. Il y a un peu souvent une misconception des risques. En fait, on prend aucun risque en créant sa boîte quand on a 25 ans, aucun enfant et pas de prêt. Et le seul risque qu'on perd, c'est peut-être quelques mois de salaire de pas l'avoir pris chez Google. Mais l'upside, c'est potentiellement énorme, évidemment financier et puis aussi intellectuel. Et donc, on s'est lancé là-dessus et on s'est dit, OK, on part, on met nos petites économies là-dessus et au bout de 3 mois, on va avoir fait un produit ensemble.
Donc, vous partez avec une idée, Sunrise, enfin une idée de calendrier, qui est la tienne plutôt, enfin peu importe, mais
ouais, les idées.
Ouais. Et du coup, surtout un calendrier, tu te dis en fait en soi, ça reste un calendrier. Et tu te dis, t'arrives à alors il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans, mais t'arrives à motiver
c'est
quelqu'un.
C'est une mauvaise idée, hein, c'est pour.
Mais non, mais c'est vrai, c'est vraiment fascinant. Je veux dire, et ça a été fascinant. Moi, ce produit m'a fasciné comme il a fasciné, je pense, pas mal de gens. Parce que Sunrise, c'était vraiment le truc où tu disais bah oui, j'utilise Sunrise, et les gens te demandaient pourquoi, tu disais mais bah, juste parce que c'est mieux, et ils te demandaient pourquoi, et en fait t'étais quasiment incapable de le dire, et tu disais mais juste utilise-le puis tu verras, c'est mieux. Et en fait ce qui est assez intéressant, c'est que à ce moment-là vous aviez trouvé un problème dans un truc où en fait. Là, c'est peut-être du design thinking, hein, mais je pense que personne s'en plaignait. Enfin,
moi, c'est peut-être mon obsession avec le temps, mais moi, je trouvais que les calendriers étaient tous pourris.
Oui, mais
donc, moi, j'avais le problème. Ouais, donc, ouais. Peut-être, c'est peut-être une mauvaise idée pour partir comme une base de raisonnement, mais je pense que si moi, je trouve que le calendrier marche mal, ça veut peut-être dire qu'il y a pas mal de gens qui pensent que si ça marche mal. Ou peut-être même que ça veut dire que c'est vrai. Donc, après, on tente et on regarde si les gens pensent ou pas la même chose. Mmh. Mais le coût de tenter était très faible, parce qu'on a commencé à créer le calendrier avec Jérémy et Joey, qui nous a rejoints au tout début. On est parti 3 mois à Bruxelles, parce qu'on avait, on avait quitté Foursquare, donc on n'avait pas plus de visa aux États-Unis. On est parti quelques mois en Europe. Puis c'était moins cher aussi de revenir à Bruxelles, la ville d'où Jérémy est originaire, que de rester à New York, parce que le niveau de vie sont pas les mêmes. Et on s'est dit, on va sortir un calendrier en février, 3 mois après, et on verra bien si les gens disent que c'est intéressant ou pas.
Et du coup, vous partez avec un petit peu d'argent, c'est quoi, vous louez un appart là-bas, vous vous installez tous les deux,
on était au début chez les parents de Jérémy, ouais. À côté de Bruxelles, ensuite on a loué une petite maison hyper sympa à Bruxelles où Jérémy et moi on était dans la même chambre et Joey était dans l'autre chambre on mangeait des pizzas et ouais, bah, il fait froid à Bruxelles l'hiver. Donc ouais. Ça, c'est pratique au moins. On n'a pas choisi l'été où tout le monde est dehors à profiter. Il fait froid, c'est beau d'ailleurs, mais il fait froid, le ciel est gris. Donc, être à l'intérieur est un bon moment. Et c'est ce qu'on a fait et on a lancé en février. Après, on est passé par Paris pour lancer le produit le début février. Mais on n'avait pas besoin de grand-chose. Ouais.
Et donc, en 3 mois, vous lancez à tous les trois une appli. Un calendrier sur iOS uniquement.
Ouais, on n'avait pas les ressources pour faire les deux.
Et là, il se passe quoi
quand tu on a la chance d'être sur le bon timing parce que Mailbox est sorti quelques semaines avant. Donc, tout le monde est hyper excité à l'idée de réinventer les applications de productivité qui n'ont pas été touchées depuis quelques années. Mailbox fait ça sur l'email. Nous, on fait ça sur le calendrier. Donc, on est vite associé à la même démarche. Et le produit marche. Je pense qu'il y a...
Le premier produit marche bien.
En fait, j'ai contacté des journalistes assez tôt dans le projet pour les impliquer sur la démarche. Mmh. Et je suis allé identifier des journalistes que je trouvais être accessibles pour moi, parce que quand je contacte un journaliste à ce moment-là, j'ai aucun leverage, et qu'il y était des journalistes qui potentiellement seraient intéressés par le fond, c'est-à-dire réinventer une app de calendrier. Et donc, j'ai discuté avec Elie Sandberger, qui travaillait à The Verge à l'époque, et avec Romain Dillet, que personne ne connaissait à l'époque, qui était chez TechCrunch, qui écrivait des super articles en anglais, donc je pense que personne ne savait qu'il était français. Et je contacte Romain, qui était à l'époque à Lyon. Non, à l'époque, il était chez AOL, d'ailleurs à New York. Donc, je le rencontre à New York. Je rencontre Elie, c'était avant qu'on revienne en Belgique. Et je leur dis, ben voilà, je travaille sur ce projet-là. Et j'aime vachement la manière dont vous écrivez sur TechCrunch et sur The Verge. Je pense que ça pourrait intéresser votre audience. Eux, ils s'en rendent compte aussi. Mmh. Et donc, on se suit au fur et à mesure de comment est-ce qu'on construit le projet. Ils nous donnent du feedback sur le projet. Et donc, quand on lance, on a la chance d'avoir Elie sur The Verge et Romain sur TechCrunch qui écrivent des beaux articles sur Sunrise. Et donc là, du coup, ce jour-là, la machine s'emballe et on remonte naturellement dans les classements de l'App Store via la presse. Et en fait, après, les gens qui regardent sur leur téléphone les apps les plus téléchargées de la journée voient aussi le Sunrise, comprennent ou comprennent pas trop d'ailleurs ce que c'est, mais cliquent, essayent le produit. Et du coup, ça nous a permis d'avoir 100 000 téléchargements la première semaine. Mais un peu, voilà, avec le kick-off de la presse et après le fait que l'App Store...
Tu vas pas me dire que c'est de la chance?
Non, je pense qu'il y avait du... Enfin, après, on aurait pu avoir le lancement de, d'une autre app le
bien
jour
sûr,
même
sûr,
qui fait qu'on serait qu'on passait à la trappe. Ou,
non, mais je veux dire, c'est là aussi.
Ou, mais, oui,
c'est travailler en amont.
C'est travailler en amont avec un réalisme sur à quel journaliste on peut parler et est-ce qu'on leur raconte une histoire qui est intéressante pour eux et pour leur audience. Et je pense qu'on avait une bonne histoire à raconter pour l'audience de Romain et on avait une bonne histoire à raconter pour l'audience d'Alice, effectivement.
Et donc, du coup...
Mais ce que c'était authentique, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... On a pris une agence de presse
ouais,
et on leur a envoyé des communiqués de presse qui étaient copiés-collés. Je sais pourquoi je suis allé chercher Romain. Je sais pourquoi je suis allé chercher Elise. Et c'était pas parce qu'il travaillait chez TechCrunch ou parce qu'il travaillait chez The Verge. C'est parce que j'étais intéressé par la manière dont ils écrivaient. J'avais vu le potentiel qu'ils ont d'ailleurs bien prouvé depuis, chacun dans leur dimension, sur leur travail. Et donc... J'avais envie qu'ils soient impliqués presque juste intellectuellement dans le projet.
Okay.
Et pour moi, c'est pas des journalistes, c'est devenu des personnes d'abord, qui sont intéressantes, qui ont des choses à dire, qui ont un point de vue sur le monde et qui ont une audience aussi. Donc évidemment, ça nous intéresse pour faire passer notre message, mais ils ont pas été choisis au hasard. Je pense que ça, c'est.
Mais
là, il y a un choix, ouais, effectivement. Intéressant.
C'est aussi comme ça que tu as probablement un meilleur article avec plus de fond, avec plus de.
Ah oui, c'est
voilà.
D'accord.
T'as pas, si tu balances des communiqués, finalement, généralement, t'as pas un.
Ouais, voilà. Je crois pas à la loi du grand nombre, effectivement, de ce point de vue-là.
Et du coup, vous incorporez une société en France?
Je crois qu'elle était déjà créée. Non, aux États-Unis.
Aux États-Unis.
On savait qu'on voulait revenir aux US. Donc
d'accord.
On avait créé déjà la structure aux États-Unis.
D'accord. Vous êtes associés tous les deux?
Tous les deux, et après Joey, premier employé, mais Joey, en fait, il a, même s'il n'avait pas officiellement le titre de cofondateur, il a tout d'un cofondateur, oui.
Ouais. Et du coup, vous cofondez ça, vous n'avez pas levé d'argent
au début. Avait levé un peu d'argent d'amis et de gens qui nous soutenaient,
combien
soutenaient à New York. 300 000, je crois.
Ah, quand même, oui, pas rien. Et tu te souviens à peu près pour quel pourcentage?
On avait fait une cape à 4 avec 20% de discount.
D'accord. Et du coup, vous êtes, vous vous lancez, vous avez quand même donc levé un peu d'argent, vous pouvez vous payer un peu?
Je crois qu'on se payait pas, mais
d'accord.
En tout cas, on payait nos dépenses.
Et les dépenses, c'était quoi?
Les dépenses, c'était les frais d'avocat pour pouvoir refaire faire notre visa pour les US. On avait des frais de serveur, des trucs comme ça. Mais on n'a pas dû... On a plus chance qu'on avait levé parce qu'on voulait récolter un peu d'argent de friends and family, mais je sais pas si on a dépensé beaucoup avant de lancer le produit.
Et donc, tu arrives à lever parce que c'est quand même aussi, à cette époque-là, 300 000 euros, dollars, en disant je vais faire un calendrier. C'est pas si simple, si.
Après, les gens, ils font un pari sur toi. À ce moment-là, il y a des gens qui me connaissent à New York, qui ont vu le travail que j'ai fait justement avant Foursquare, chez Foursquare, et qui, même des gens avec qui ont essayé de me recruter à plein de moments dans ce parcours-là, qui me disent le jour où tu veux faire un projet,
appelle-moi.
Et les gens mettent 25 000 dollars assez facilement.
Ouais, non, donc c'est une belle approche de confiance, en tout cas. Et du coup, vous avez créé la boîte, vous faites tout ça. Et le modèle économique, c'est quoi?
Le modèle économique, c'est de dire que le temps, c'est de l'argent. Donc après, l'implémentation, quelque part, moi, elle m'intéresse moins. Mais si on arrive à être le calendrier par défaut, entre guillemets, ou en tout cas le calendrier que les gens utilisent sur Terre, j'ai aucun souci sur le fait qu'on va gagner beaucoup d'argent.
Mmh.
Et d'ailleurs, personne n'a jamais eu aucun souci sur ce sujet-là. La question, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Je pense qu'il y a... Deux sujets quand on crée une boîte, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à faire que le projet soit gros, enfin qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent ou qu'il y ait beaucoup de clients, et est-ce que si on arrive là, ça vaut beaucoup d'argent, au sens où on peut le monétiser. Je pense qu'il faut au moins avoir réponse à une ou deux questions. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment on va arriver à faire un truc, et puis en plus on ne sait même pas si on y arrive, si ça va être important. En gros, là, on a une question, à mon avis, au moins à résoudre. Nous, on n'avait aucune idée de comment on allait arriver à devenir le calendrier pour tout le monde. Par contre, il y avait aucun doute que si on arrivait, c'était forcément gros. De même manière que Google avait peut-être aucune idée de comment monétiser un search engine, mais s'ils arrivent à être la porte d'entrée du web, on imagine qu'ils vont bien trouver un moyen de gagner de l'argent. Et ça, c'est assez. Et d'ailleurs, l'autre truc peut être vrai, c'est-à-dire que si on sait comment arriver à quelque chose, on peut répondre à l'une ou l'autre des questions. Nous, l'inconnu, c'était comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Parfois, il y a des gens pour qui ils savent très bien comment ils vont arriver à faire que tout le monde utilise leur produit, mais ils savent pas forcément. L'inverse plutôt. Ils savent monétiser, mais ils savent pas comment.
Oui, exactement.
Pour avoir la réponse à au moins une des deux.
Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que si tu sais monétiser un produit que personne n'utilise, ça sert pas à grand chose non plus.
Du coup, au moins, on sait que si on met du monde dessus, ça va être monétisé. Donc, voilà, ça, c'est un peu.
Le truc, c'est que du coup, dans une présentation d'investisseur, t'as pas vraiment de projection financière.
Je dis le temps, c'est l'argent.
Ouais, mais t'as pas de projection financière. Tu te dis pas dans deux ans.
Non, on a levé notre premier tour qu'on a donc du coup nos 1,9 million qu'on complétait 300 000. J'avais décidé de pas faire de deck.
Donc un deck, c'est une présentation. Hein, et t'avais décidé de dire voilà.
Non, j'ai dit voilà, moi j'allais au tableau et je faisais ma présentation et mon show au tableau parce que je trouve que c'est plus intéressant. Et sinon, je disais, si vous voulez voir ce que c'est que le produit, vous allez sur l'App Store, vous tapez Sunrise, si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous regardez si ça vous plaît ou pas.
Et puis, tu avais une traction avec toi qui était importante derrière. C'est-à-dire voilà. Que tout le monde téléchargeait.
Enfin, tout le monde. Quelques personnes téléchargeaient l'application, mais effectivement, c'était un bon démarrage. Après, je pense que j'ai assez vite compris que lever des fonds, c'est pas quelque chose de rationnel, en fait. C'est comme une histoire, c'est comme du cinéma, quoi. Il faut raconter une histoire, et il y a pas de vraiment, enfin, à part évidemment dans les levées de fonds, série C, série B, enfin, les plus gros montants. Au début, c'est comment est-ce qu'on raconte une histoire.
Oui.
Donc, quand on voit quelqu'un arriver, il vient de lancer son app, il a 100 000 téléchargements la première semaine, il nous montre un truc qui est vraiment bien fait, parce que la première version était quand même déjà hyper intéressante. Et il nous dit que le temps c'est de l'argent, bon, c'est quand même assez crédible, quoi. C'est pas une grosse arnaque.
Et du coup, vous arrivez vers cette deuxième levée. C'est quoi l'aventure du coup entre ce lancement, ces 100 000 téléchargements et cette deuxième levée? Vous avez un lancement, j'imagine, Android. Vous avez
on a levé donc les 1,9 million. Après, on a levé ça en gros dans le mois qui suit le lancement, ou dans les deux mois qui suivent le lancement.
Ouais, donc ça allait très vite. Et l'idée de cet argent, il sert à améliorer le produit.
Ouais.
Et c'est quoi donc,
alors, du coup, à recruter des gens, du coup, et la conséquence de recruter des gens, c'est d'améliorer le produit. Ouais.
Ouais. Et l'amélioration du produit, alors au-delà peut-être d'être un terme multiplateforme, c'est quoi?
Bah après, on a fait des fonctionnalités comme ce qu'on a appelé les calendriers intéressants. On a ajouté les matchs de foot ou les matchs ou les vacances scolaires directement dans le calendrier. On a fait beaucoup d'intégrations avec plein d'applications pour que quand on met un reminder dans une application de to-do, ça apparaît dans son calendrier. Et on avait plein d'autres types d'intégrations comme ça avec Facebook, avec les anniversaires Facebook, les événements Facebook. On a fait ensuite, effectivement, on a recruté Arnaud qui a travaillé sur Android. On avait Victor qui travaillait sur le desktop. Après, on a fait beaucoup d'améliorations au fur et à mesure du produit. On a lancé sur l'iPad, on a lancé un outil de scheduling à la fin. Enfin, après, sur les deux ans du projet, il y a eu effectivement plein d'améliorations, à la fois sur une plateforme spécifique, des améliorations successives, et après ouvrir Sunrise sur plusieurs plateformes.
Et alors, quand on voit l'aventure Sunrise de l'extérieur, on a l'impression que ça a juste été un enchaînement de succès. Vous vous êtes planté, vous avez fait des conneries.
Tous les jours, on faisait des erreurs, ouais.
Ouais, peut-être en entourant un ou deux fails qui te reviennent en tête.
Bah, par exemple, on a passé pas mal de temps au début de la première année à essayer de rendre l'app plus virale. Donc on a essayé de tweaker le fait que les gens... on pensait que c'était peut-être un moyen de le faire, c'était que les gens s'envoient des messages d'anniversaire via Sunrise. Et que du coup les gens découvrent Sunrise en ayant un ami qui leur dit hey, bon anniversaire, hey, by the way, tu devrais regarder cette table de calendrier. Bon, ça a pas trop marché. On a essayé aussi d'optimiser les invitations calendrier, qui était à mon avis une bonne idée, mais c'était aussi compliqué. Le calendrier, c'est quand même très social, donc il y a des invitations qui sont envoyées, donc on les a redesignées. On avait essayé de faire en sorte que les gens veuillent télécharger Sunrise quand ils reçoivent une invitation de quelqu'un qui l'utilise déjà. Je ne me rappelle plus exactement pour quelle raison, mais ça n'avait pas dû marcher comme on voulait. Donc là-dessus, on a fait par exemple une expérimentation qui est sur laquelle on a bien appris, mais qui n'a pas été successful, de comment est-ce qu'on implémente de la viralité dans une app de productivité. Après, j'imagine même pas encore le nombre d'erreurs qu'on a dû faire, en permanence, quoi.
Et donc, vous faites cette levée, il y en a eu d'autres après ?
Après, on a fait notre série A un an après avec Balderton, ouais.
D'accord. Donc combien ?
6 millions, je crois.
6 millions.
Ouais.
Et vous rentrez pas un euro de chiffre d'affaires ?
Non.
Vous avez jamais rentré un euro de chiffre d'affaires ?
Non, parce que le chiffre d'affaires, pour moi, soit on en fait beaucoup, soit on en fait pas. Encore une fois, on n'est pas une app B2B, donc je sais pas une généralité, mais pour nous, soit on en faisait beaucoup, soit on en fait pas, parce que dès qu'on commence à en faire, on est jugé sur le multiple du chiffre d'affaires ou un truc comme ça. Et ça, en gros, c'est un jeu qu'on voulait pas jouer, parce qu'on avait peur de le perdre, et donc du coup, on l'a pas joué, et donc du coup, au moins, on peut pas être valorisé sur un multiple d'un nombre qui a une réalité financière.
D'accord. Et donc, vous avancez sur ce produit et arrive assez rapidement, finalement, des intérêts de potentiels acquéreurs.
Ouais, Dropbox, la première année, on a pas mal discuté avec l'équipe là-bas. Justement, Dropbox a acheté Mailbox, qui était l'app qui était similaire à nous. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Gentry, qui était le CEO de Mailbox, qui était exceptionnel humainement et intellectuellement, et on a pas mal discuté, est-ce que ça ferait du sens pour Dropbox de racheter Sunrise. Ils ont fait une offre à 5 millions, ça nous intéressait pas du tout. Et du coup, après on s'est dit, bon, on se reverra l'année prochaine.
Ça c'était avant la levée, la deuxième ?
C'était juste après, je crois, ouais. Ouais. Juste après la première.
La première, ouais. Donc 5 millions, faut les refuser quand même, je veux dire.
Ouais, mais on a levé à une valo... on a levé à 5 près, donc c'était inférieur à la valo de notre tour, donc ça...
5 prémonies, donc 5 ouais.
On avait
avant
la boîte valait
7 millions.
Sur papier, ils nous proposent 5, bon, on aurait pu probablement négocier 20 en faisant une bonne négo, mais bon, c'est pas très moi je trouve pas ça, enfin,
tu pensais que ça valait beaucoup plus?
J'en sais rien, parce que je pense que le prix est complètement relatif et ça veut rien dire,
ouais.
Mais en tout cas effectivement à cette époque là ça nous a paru pas être un truc qui était irrefusable, et donc on a décidé de continuer. Mais de garder de très bonnes relations avec Gentry, et ensuite on a eu Microsoft au bout de effectivement un peu avant 2 ans, un an et demi après.
D'accord. Et donc du coup un an et demi, et là Microsoft vous voir. Ils vous appellent, ils sont accompagnés, ils ont une banque, comment ça se passe?
Non, ils nous envoient un message sur le support,
ouais.
Et ils nous disent est-ce qu'on peut se rencontrer. Et nous, on discutait pas avec eux, on discutait avec Apple beaucoup, avec Google aussi beaucoup. On discutait pas avec Microsoft, donc ça nous intéressait parce que c'est un des providers de services de calendrier avec Exchange et Outlook.com, donc c'est Office 365, donc c'était hyper important pour nous d'être en contact avec eux. Pour nous, c'était pas une grosse audience, parce qu'il y avait peu de gens qui étaient sur Exchange. On avait beaucoup d'utilisateurs qui étaient sur Google Calendrier. Donc, on les reçoit quand même. Et là, on s'aperçoit vite que c'est pas vraiment un meeting pour parler d'intégration, mais que c'est un meeting pour parler de rachat. Et après, il y a tout le processus du. On peut en revenir, mais après, il y a toute la phase où on commence les discussions avec Microsoft jusqu'au moment où on annonce que la boîte a été rachetée en février 2015.
Donc 2 ans après la création.
Presque 2 ans après la date anniversaire, quoi.
Et c'est quand même assez fou. Et du coup, vous faites des allers-retours, c'est quoi, à Redmond, ça se passe directement au siège ou c'est...
Bah déjà, on leur dit qu'on n'est pas intéressé.
D'accord.
Je pense que ça les a énervés. Il se trouve qu'on n'était vraiment pas intéressé, c'était même pas une stratégie de négociation, mais encore une fois, pas mal de chance, parce qu'en fait, c'était, je pense, la bonne réponse à donner. Donc on dit qu'on n'est pas intéressé une fois, ils disent pourquoi, on dit bah on n'est même pas intéressé de répondre à la question pourquoi, donc ils disent mais pourquoi vous voulez pas répondre à la question pourquoi, et ils disent bah on ne répond même pas à la question du pourquoi. Donc c'est toujours assez frustrant, je pense que je suis assez bon en plus pour ne pas répondre. Et après ils contactent un de nos investisseurs, Bernard Liotto, qui a fait Business Object, probablement celui qui a le plus réussi dans l'informatique, qui est français. Mais qui est aussi hyper indiscret, donc c'est pour ça qu'on le connaît pas beaucoup. Donc Bernard était investisseur chez nous à partir de l'été 2014. Et donc il contacte Bernard et ces gens-là nous disent non, est-ce que c'est vraiment non? Et là ils essaient de discuter avec Bernard pour voir si ils peuvent nous proposer un prix pour revenir à la table de poker. Ils nous proposent un prix et on dit ah oui, en fait peut-être qu'on va y réfléchir. Et après, on a continué quelques discussions par téléphone. Et après, on est allé effectivement une fois à Redmond, rencontrer Chilou, qui était le numéro 2 de Microsoft à l'époque, et Rajesh, qui était celui qui s'occupait de tout Outlook. Et on leur a présenté un peu pourquoi est-ce qu'effectivement on pensait que ça faisait du sens pour eux de rester Sunrise. Je pense qu'on a fait avec Jérémy une journée assez épuisante là-bas de meeting, mais une journée où on a vraiment donné le meilleur de ce qu'on pensait être l'intégration de et la vision de Sunrise et pourquoi ça faisait du sens pour Microsoft. Et après, effectivement, c'était une négociation par téléphone sur les key terms du deal, c'est-à-dire en gros le prix, quoi.
Et le prix, il est public?
Non, je crois pas.
Alors, on dit, bon, je peux voir ce que je lis dans la presse, ouais. Enfin, à droite à gauche, on dit toujours, on voit plus de 100 millions de dollars. Donc, ça sort comme ça. Mais il n'est pas public, en l'occurrence.
Ma connaissance, non.
D'accord.
Mais après, on a tellement d'investisseurs qui sont chez nous qu'il y a peut-être un investisseur qui a donné le chiffre, d'accord, sans même savoir que c'était pas un chiffre public, d'ailleurs. Mais le chiffre est... Ouais. Les gens aussi confondent souvent succès financier avec succès tout court. Il faut décorréler les deux. Mais effectivement, c'était pour nous... Jérémy, l'équipe, et moi et nos investisseurs, ceux qui nous ont fait confiance dès le début, et ensuite Bernard et l'équipe de Ballerton, c'était effectivement un super rapport coût passé sur résultats financiers.
Qu'est-ce que ça change? T'as quoi, 28 ans quand tu vends? 28,
ouais.
Donc 28 ans, tu prends quand même un sacré paquet d'argent. Ça te fait shifter? Pas du tout.
Je pense qu'il faut demander à mes amis. Je suis un peu la personne mal placée pour répondre. Pour moi, l'argent, c'est un moyen de faire des choses dans le monde. Et j'ai pas vocation à mourir le plus riche du cimetière. Donc, la question, c'est après, comment est-ce qu'on déploie cet argent de manière efficace? Évidemment, il y a des choses qu'on veut changer dans sa vie par pur confort matériel. Mais après, la question, c'est comment est-ce qu'on utilise ça pour avoir encore plus d'impact sur quel que soit le projet qu'on fasse après peut-être que mes amis diront que j'ai beaucoup changé, hein. C'est possible, mais je les laisserai parler.
Et du coup, tu es engagé au-delà de l'argent dans les négos, il y a un engagement sur la durée où tu dois rester chez Microsoft.
Ouais, ça c'est classique, il y a toujours, en gros, le marché dit que tu dois rester entre 2 ans et 4 ans.
D'accord.
Nous, on a fait 3 ans, ça c'est un truc assez classique dans toutes ces négos de ce type-là.
Donc là, à l'heure où on se parle, on est en février.
Ça fait 3 ans.
Ça fait 3 ans.
Ouais, un peu plus de 3 ans.
D'accord. Et du coup, ça fait quoi d'arriver chez Microsoft quand t'as fait ça dans ta maison à Bruxelles, puis à Paris, puis ici, avec notamment...
Alors, nous, on a gardé les bureaux à New York, donc c'était, je pense, un cas un peu particulier. On avait dit d'ailleurs qu'on voulait pas déménager à Seattle, un peu pour les mêmes raisons pour lesquelles on voulait pas s'installer à San Francisco au début. Et du coup, on était... peut-être qu'il va falloir que j'aille éteindre la machine à laver, sinon ça va sonner pendant 10 minutes.
Non, c'est pas grave, on l'entendra pas.
Ok. donc on arrive, nous on leur avait dit qu'on voulait rester à New York et pas aller à Seattle, et donc ils étaient ok avec le deal. Donc pour nous, il n'y avait pas beaucoup de changements. Au début, ce qui a commencé à changer un peu le plan qu'on avait en tête, c'est qu'on a fait les négociations avec Microsoft. On savait pas qu'ils rachetaient en même temps aussi Accompli, qui était, on va dire, un compétiteur, enfin une version moins inspirée, je trouve, de Mailbox, qu'ils ont racheté à ce moment-là. Et on savait pas qu'ils rachetaient cette équipe-là aussi. Et donc, nous, en fait, on était la partie calendrier qui rachetait. Et il y avait aussi cette équipe-là qui s'occupait de la partie email. Et donc, une fois qu'on a découvert un peu ça, en étant déjà assez avancé dans la négociation, on devait gérer ce changement un peu de planning quand on est arrivé chez Microsoft. Et c'est là où on a décidé de réintégrer, enfin, d'intégrer Sunrise dans Outlook, du coup. Mais... ça, faisait pas vraiment partie du plan et c'était pas une décision. Enfin, c'était la bonne décision pour Microsoft. C'était pas forcément la bonne décision, on va dire, pour l'équipe. évidemment pour nos utilisateurs, mais c'est à la limite, malheureusement, c'est le... C'est ça fait partie de des
parce que ça c'est un truc qui est très bizarre, c'est-à-dire que tout le monde qui connaît ou a connu du coup Sunrise se dit non mais attends, pourquoi ils ont racheté ce truc là
pour le fermer.
Alors on comprend évidemment, ils achètent des fonctionnalités, des tas de choses, mais enfin on se dit ils achètent aussi une traction, ils
non
achètent...
parce que puis... Sunrise avait 1 million d'utilisateurs actifs par mois. Même un peu moins, ça c'est rien par rapport au scale d'Outlook. Nous, on vit peut-être dans notre bulle de gens qui sont dans des startups et qui utilisent pas Outlook parce que c'est utilisé que dans les grosses entreprises. Mais c'est la réalité, c'est que Outlook c'est un produit énorme qui a 500 millions d'utilisateurs actifs par mois. Et donc Sunrise à côté, c'est vraiment.
Mais tu te dis quand même, ils payent ce produit.
Ils payent pas la fraction.
Ils payent ce produit, donc ils achètent un produit.
Ils achètent l'équipe, oui.
L'équipe et le produit, ils payent ça une fortune, visiblement.
Oui, mais enfin une fortune pour nous. Mais
pour eux, ouais, non.
Les gens seraient aussi surpris qu'on gâche le pain qu'on achète 2 € à la boulangerie, et pourtant chaque jour on gâche la moitié de la baguette. Et pour eux, c'est acheter une baguette.
Ouais.
Et on se pose pas la question de savoir s'il faut. Se flageller parce qu'on n'a pas congelé le pain suffisamment tôt et qu'on va devoir le jeter. Pour eux, c'est une erreur d'arrondi, 100 millions Microsoft.
Oui.
200 millions, c'est une erreur d'arrondi aussi. C'est même pas un chiffre qu'ils ont besoin d'annoncer officiellement en bourse. Donc ça dépasse même pas le threshold où ils doivent annoncer ça comme un événement significatif d'un point de vue entreprise cotée, régulation, etc. Ils annoncent quand ils font une acquisition de Minecraft pour 2 milliards, Sunrise, ils n'ont pas besoin d'en parler. Donc c'est pas significatif pour eux financièrement. Donc le fait de le laisser ou pas, c'est pas un critère qui est basé sur le prix qu'ils ont acheté.
D'accord. Et du coup, vous restez à New York, mais vous intégrez des équipes Microsoft à New York.
On intègre les équipes d'Accompli, du coup, qui est devenue Outlook.
Ouais.
Et on les intègre. Eux, ils sont à San Francisco. Nous, on a une partie de l'équipe à San Francisco. Et principalement toute l'équipe à New York. Et ce qui était un peu difficile, c'est que c'était pas vraiment la même culture entre les deux équipes. C'était difficile à vraiment prévoir avant de commencer l'intégration. Parce que nous, on avait une culture très produit et eux, ils avaient une culture différente. Et donc, c'était un peu difficile pour l'équipe de s'intégrer avec... nous, on était très excités de contribuer à Outlook, mais l'équipe était un peu un mindset un peu différent d'une autre. Et du coup, intégrer ça, c'était pas facile.
Et vous l'avez fait quand même. Et du coup, tu fais quoi depuis 3 ans chez Microsoft ?
Moi, j'ai passé, les 18 premiers mois à intégrer Sunrise dans Outlook.
D'accord.
Donc intégrer l'équipe, intégrer les fonctionnalités. Et ensuite, après, préparer ma transition, parce que c'est pas ce que je voulais faire tout le long de mon temps chez Microsoft. Et après, j'ai passé les 18 derniers mois à travailler sur d'autres idées sans vraiment qu'elles aboutissent. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus.
D'accord. C'est-à-dire, c'est des propositions, des choses, enfin, des projets.
Ouais, des idées de projets, mais qui n'ont pas vu le jour pour plein de raisons.
Internes.
Ouais.
Ouais. Et entreprendre, évidemment, ça te repartir, ça te chauffe, c'est...
Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer du coup dans les... Enfin, je suis la profession, c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
D'accord. Ok, tu sais dans quoi ?
Il y a quelques projets qui sont effectivement en cours.
Et tu...
quelques idées plutôt qui sont en cours.
Et tu as investi, tu as fait quoi avec
il y a une partie de l'argent que j'ai investi, placé dans des startups.
Investi dans les impôts aussi beaucoup, parce que je crois que les impôts sont très très chers, hein, sur les sorties aux États-Unis. On a tendance à pas le croire, mais c'est 50%, je crois, non ?
Non, c'est, ça dépend des États. À New York, c'est je crois 36 ou 37.
D'accord.
Et c'est un il y a peut-être un mythe que les États-Unis sont un paradis fiscal. Ça dépend ce qu'on appelle un paradis fiscal, mais je crois que c'est pas que ça répond à cette définition de 38% d'imposition.
Pas dans le Delaware.
Sachant qu'en plus, le sujet en plus, c'est qu'ici ça finance même pas un programme de social, c'est-à-dire que ça finance même pas les. Enfin, si ça finance une partie des écoles, mais beaucoup des écoles sont privées. Ça finance très peu d'infrastructures pour les enfants. Ça finance très peu de programmes sociaux pour les gens qui sont défavorisés. Le problème, c'est que ça finance beaucoup l'armée et la technologie que l'armée déploie, ce qui parfois a des conséquences hyper positives sur la société, mais qui parfois n'en a pas. Et donc, c'est effectivement une répartition des richesses qui est un peu plus, qui est en tout cas différente de celle en France, mais c'est clairement une répartition des richesses parce qu'il n'y a pas un taux d'imposition nul sur les exits. Ouais.
T'as investi dans quoi ?
Dans beaucoup de projets très intéressants. C'est toujours beaucoup plus facile de donner le nom de ceux qui marchent que ceux qui ne marchent pas. Alan à Paris qui fait l'assurance santé avec Jean-Charles et Charles. Frishti à Paris qui fait la livraison de plats à domicile avec Julia et Quentin. Front à San Francisco avec Mathilde qui fait de l'inbox partagé. Évidemment, là, c'est tous les noms de ceux qui cartonnent.
J'étais avec Thibault Elzière plutôt dans la semaine.
Voilà.
Voilà.
Ils sont aussi investisseurs chez Front. Beaucoup d'autres projets. Récemment, un projet qui s'appelle Waldo, mon ami Amine, qui utilise la computer vision pour automatiser les tests d'applications mobiles. Getaway, qui vit à New York, qui fait des petites cabanes dans les bois pour que les gens se reposent le week-end s'éloignent des grandes villes et ils se retrouvent un petit peu dans ces endroits calmes, mis au milieu de nulle part, qui est un beau projet. Beaucoup de beaux projets, beaucoup de projets dans lesquels je suis égoïstement en fait l'utilisateur, ce qui me permet de peut-être comprendre un peu mieux le besoin. Et donc toutes ces boîtes, c'est des boîtes qui me... Soit où je connais très bien le fondateur et je suis hyper honoré de les soutenir, soit j'ai eu la chance d'être l'utilisateur de ces produits-là et je les trouve super, donc je les aide avec une manière... financière ou même parfois j'espère des conseils ou en tout cas des retours d'expérience intéressants.
Pour finir j'ai l'impression que t'es bien organisé. Alors ce qui m'intéressera, c'est que tu m'expliques que je vois là que tu bosses debout notamment, que t'as l'air très très à cheval sur comment tu bosses. Alors déjà physiquement, très clairement, c'est-à-dire debout avec un matériel spécifique que tu as posté récemment sur LinkedIn, je crois, et aussi, j'imagine, mentalement, dans ton organisation, dans ton temps. Tu peux m'expliquer un peu
Je pense qu'une des... Bon, c'est pas, peut-être pas un hasard que finalement on ait fait une app de calendrier à un moment donné, mais une des dimensions qui est souvent pas valorisé par les gens à sa valeur correcte, c'est le temps. Et comment est-ce qu'on arrive à optimiser, pas optimiser d'une manière nerveuse, mais juste comprendre que le temps est fini, que 24 heures par jour, et qu'il faut arriver à allouer son temps de manière la plus intéressante possible pour passer du temps sur ses projets, mais aussi avec ses amis, ou aussi faire du sport, ou méditer, ou etc., etc. Donc je suis assez rigoureux sur l'organisation de mon temps. Malheureusement, ça veut dire que parfois, je dois dire non à pas mal de gens que j'aimerais bien rencontrer, mais il n'y a pas un temps infini, donc il faut bien prendre des décisions. Et j'aime pas que le sport soit ma variable d'ajustement. J'aime pas que le temps, je pourrais toujours me coucher plus tard, mais j'aime pas devenir la variable d'ajustement pour juste mettre plus d'horaires, plus de temps dans ma journée. Donc, j'ai un peu des routines. Je me couche à 11h, je me lève à 7h, je fais du sport chaque jour. Le matin ou l'après-midi, ça dépend. Je médite le matin et effectivement, j'essaie de...
Tu médites quel type de méditation ?
C'est sur une app qui s'appelle Headspace.
Ok, oui.
Qui est en anglais et qui est vraiment bien faite.
L'équivalent français est en petit bambou et en effet, c'est vraiment
petit
Headspace.
Petit bambou, petit Bouddha, non ?
Il y a peut-être les deux. Ouais,
d'accord, ouais.
Headspace, en effet, très... ça fait longtemps ?
Je crois que j'ai médité en tout. Il faudrait que je regarde, je crois, 8000 minutes.
D'accord.
C'est assez impressionnant. Ouais. En tout, ça fait pas mal de... Ça fait plusieurs années. C'était après la vente de Sunrise. Parce que je me suis dit, ah, j'aurais bien aimé avoir ça avant. Je pense que c'est un outil que tous les gens qui montent un projet, qui peut être stressant parfois, devraient avoir. Parce que ça fait prendre du recul. Donc ça c'est le sport, la méditation, c'est deux trucs importants, je pense, dans la boîte à outils des entrepreneurs. Et souvent...
Ça revient très souvent. Hein,
le problème, c'est que... Les entrepreneurs se considèrent souvent comme la variable d'ajustement en disant « Ah, mais ce soir, je vais bosser un peu plus. » Moi, j'ai toujours été convaincu que la chance étant tellement un facteur important que bosser une heure de plus ou une heure de moins, en fait, ça changeait pas grand-chose. C'est pas que je suis paresseux, hein, mais c'est juste que comme je relativise beaucoup le succès par rapport à la chance, je pense pas que ceux qui vont, au final, arriver à gagner, encore faudrait définir ce que ça veut dire gagner, mais en tout cas, faire que leur vision devienne réalité, sont ceux qui travaillent une heure de plus tous les jours. Par contre, il faut être efficace sur son temps. Il faut refuser des moments où les gens proposent des cafés juste pour catch-up sans avoir un agenda précis. Il faut faire que les meetings durent 15 minutes au lieu de 45. Il faut faire que quelqu'un prenne des notes d'un meeting. Donc, il faut optimiser le temps qu'on passe à travailler. Mais il faut pas travailler jusqu'à 23 heures le soir parce qu'en fait, moi, pour moi, c'est juste une manière de montrer qu'on est mal organisé. Et je pense qu'il faut avoir une bonne balance dans sa vie entre justement la vie pro, la vie perso, le sport, la méditation, etc., etc., le temps en famille. Et il faut au contraire être exigeant sur son temps la journée, être efficace pour pouvoir partir tôt du bureau et se coucher. Moi, j'aime bien me coucher à 11h se lever à 1h qui est pas trop tôt et pouvoir profiter aussi des autres plaisirs de la vie. Et ça, c'est un truc que... Ouais, que sur lequel j'ai pas mal aussi réfléchi depuis Sunrise, les moments où c'est stressant ou les choses comme ça, et décorréler le succès de simplement l'énergie qu'on a mis dedans et de pas être tout le temps la variable d'ajustement notre corps ne peut pas être la variable d'ajustement en permanence.
Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de réflexions là-dessus sur justement le par exemple je trouve que c'est intéressant le café et le catch-up dont tu parles. Je pense qu'il y a des métiers sur lesquels c'est important parce que en l'occurrence quand ton business c'est de vendre des choses à des gens par exemple faut bien voir des gens et quand t'as des gens qui doivent t'apporter des projets enfin je sais pas où, ne serait-ce que quand t'es même investisseur finalement faut voir un maximum de projets faut les lire, faut les voir passer, faut les screener, faut trouver le moyen de les faire venir.
Chacun fait sa sélection en fait. Ouais, je dis pas que je prends pas des cafés avec des gens mais c'est juste que c'est facile de dire oui. C'est gentil même de dire oui. Ouais. Parfois c'est méchant de dire non et c'est toujours embêtant. Mais c'est juste une réalisation que le temps de chacun est fini. Et parfois, il y a des gens avec qui je prends des meetings, même moi, ça m'arrive souvent, je prends des meetings 3 semaines en avance. Quelques jours avant, je m'aperçois qu'en fait, je suis plus pertinent pour le sujet. Et j'annule en disant, je suis plus pertinent pour telle et telle raison. Je pense qu'on devrait pas faire ce code-là. Est-ce que t'es d'accord ou pas? Et je pense que les gens apprécient ça, en fait. Donc c'est dans les deux sens. C'est pas que je suis intouchable et que maintenant, il faut passer par 10 personnes pour discuter avec Pierre. C'est juste que c'est du respect du temps dans les deux sens. Oui. Parfois, j'apporte des valeurs sur les projets. Parfois, les gens m'apportent des valeurs sur les projets. Et on essaie de maximiser le temps ensemble, c'est facile de dire oui. Et le problème, c'est que c'est toujours ça à la place de quelque chose d'autre.
Oui,
c'est toujours ça à la place du sport, c'est toujours ça à la place du temps avec ses enfants ou sa famille, c'est toujours ça à la place de faire un projet de théâtre ou autre chose.
Et c'est la seule chose qui s'achète pas.
C'est vrai que ça a beaucoup de valeur.
Qui s'achète pas, qui se rattrape pas, on peut pas, voilà, le temps il passe et puis il passe.
On prendra des cafés quand on sera vieux.
Et encore, tu verras, quand tu seras vieux, t'auras pas envie de prendre des cafés, tu voudras toujours faire tes projets. Et donc tu bosses debout?
Ouais, je bosse debout quand je suis derrière mon ordinateur. Je pense que ça, c'est aussi un...
Debout, hein, je l'ai là, je mettrai une photo si tu veux bien, mais t'es vraiment...
Il
n'y a pas d'option d'être assis, quoi.
Bah si, je peux toujours aller dans mon canapé ça marche, mais... en fait, c'est assez curieux parce qu'on est assez irrationnel sur ce point-là. On passe beaucoup d'argent dans des spas, des trucs de massage et tout, qui coûtent 100 € par heure ou des trucs similaires. Et en fait, on passe aucun argent et aucun temps de cerveau sur est-ce que la souris qu'on a, c'est la bonne souris et on passe des heures et des heures entières chaque jour sur nos ordinateurs. Et on n'a pas encore intégré qu'il fallait adapter nos outils de travail. Un clavier ergonomique que j'ai coûte 100 $, la souris elle coûte je crois 20 $, le mat en bas il coûte 100 $.
Ça c'est ce sur quoi t'es debout.
C'est l'investissement qui fait en gros 350 € et qui derrière évite...
T'as des lunettes aussi sur ton...
Ça, c'est un trip d'un pote qui veut que je mette ses lunettes le soir pour éviter que mes yeux s'adaptent à la luminosité du soir.
D'accord.
C'est un peu comme le mode night mode maintenant sur les téléphones, mais genre intégré sur tes lunettes. Donc ça, c'est un ami qui m'a proposé ça. Ça, c'était assez rigolo. Je l'ai pas encore essayé. Donc ça, c'est pas encore dans ma routine. Mais parce que de toute façon, je travaille pas le soir. Et donc, Donc il y a pas de, donc je travaille pas le soir, donc ça c'est, donc j'ai pas d'écran le soir. Mon téléphone, il est pas dans ma chambre, ça c'est aussi un changement important. Le téléphone, il est chargé en dehors de la chambre.
Oui.
Donc quand je me réveille, c'est pas la première chose que je vois. Je me réveille avec les enceintes Sonos qui sont connectées à une playlist Spotify, de bruit de la mer qui me réveille tranquillement, bien zen. Et il y a juste un iPad dans la chambre sur lequel il y a Headspace qui est installé, où il y a aucune application sociale, il y a aucune notification, il y a aucun bouton rouge qui clignote, il y a rien, ça fait pas de bruit. C'est un vieux iPad, donc il est lent, donc j'ai même pas envie d'utiliser. Et il y a Headspace dessus et je clique dessus et le matin je médite et après je passe une meilleure journée. Donc c'est ça, je pense qu'il y a des, c'est bien de passer un peu de temps à réfléchir sur effectivement le, encore une fois c'est le comment, c'est le how dont on parlait tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on travaille d'une manière plus efficace, et c'est pas celui qui met le plus d'heures, mais c'est celui qui travaille le mieux à mon avis. Et utiliser les bons outils, et même si on est employé dans une boîte qui veut pas payer un écran, un grand écran, qui veut pas payer une souris ergonomique, ou qui veut pas payer un clavier pour whatever reason, il faut juste se l'acheter soi-même. Il faut le demander à Noël, en fait. Il faut dire, le truc sur lequel je passe 8 heures par jour, c'est mon ordinateur. Il faut que mon ordinateur, il soit optimisé pour l'ergonomie de mon corps. C'est un investissement qui, même financier, est plus rentable que de payer des massages dans le futur, où tous les problèmes de dos que les gens ont, ou les problèmes de nerfs que les gens ont dans les bras, qui sont des vrais problèmes. Parce que quand on est dans des mauvaises positions pendant 8 heures par jour, évidemment, ça a un impact sur le corps, et l'évolution darwinienne nous a pas designé, nous a pas programmé avec notre DNA pour être derrière des ordinateurs depuis des millions d'années. Donc il faut faire attention à ça, et ça c'est un petit message à caractère informatif, quoi. C'est payez-vous le bon matos pour le coût à l'heure amorti de cet investissement, et rien. Et je pense que j'espère qu'il y a de plus en plus de startups qui prennent ça en compte aussi et qui dépensent de l'argent sur les conditions ergonomiques pour leurs employés.
Et alors, pour finir, explique-moi juste ton agenda, comment tu l'organises, parce que t'es un pro de l'agenda, au moins sur le soft, mais j'imagine, tout à l'heure tu me parlais de blocs, de choses, et tu te mets vraiment des blocs pour te former, par exemple, tu te mets...
Ce qui n'est pas dans mon agenda n'existe pas, donc ça c'est simple. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que si je suis pas capable, par exemple si je dis j'aimerais bien apprendre l'anglais, mais que je le mets pas dans mon calendrier, ça veut dire qu'en fait je suis pas capable de rendre le truc actionable. Pour moi, si on peut faire quelque chose, reviewer un contrat ou avancer intellectuellement sur un sujet, il faut que ça c'est du temps. Ce temps passé là, il est forcément passé à un moment donné, et si c'est pas dans le calendrier, pour moi ça veut dire que ça n'existe pas, c'est-à-dire que ça n'arrivera pas. Et ça c'est un principe de la physique, si on passe pas de temps sur quelque chose qui prend du temps, la physique nous dit que ça n'arrivera pas. Donc là-dessus, pour moi c'est hyper simple de juste regarder mon calendrier et de bloquer des blocs de temps dans mon calendrier, pas seulement pour des meetings, mais aussi pour du temps sur lequel je réfléchis, où je dois avancer sur un sujet. Donc du coup, mon calendrier est toujours rempli, parce que je fais toujours quelque chose, a priori, pendant la journée, pendant les heures où je travaille. Il y a quelques fois des meetings, mais il y a aussi beaucoup de fois, c'est du temps où je dis reprendre tel email, reprendre les notes sur ce sujet-là, lire tel passage d'un bouquin que je veux relire, etc., etc. Et donc ça, je le mets dans mon calendrier. Et donc c'est matérialisé par mes projets ou ce que je veux faire dans la semaine, c'est matérialisé par visuellement du temps qui est bloqué dans mon calendrier, et du coup c'est très simple de juste suivre ça et d'être sûr de passer du temps aussi sur les choses sur lesquelles on veut avancer.
D'accord. Écoute, ouais, moi-même, mes collaborateurs me trouvent toujours un peu chelou que deux fois dans la semaine, par exemple, j'ai des blocs temps qui sont genre booké, ou je veux pas qu'on me book de voilà. Rendez-vous, parce qu'ils sont de demi-journée, ou voilà, ils sont réservés à de l'interne, les employés, du management, des rendez-vous, pour prendre le temps, parce que sinon tu passes ta vie en rendez-vous aussi.
Ouais, voilà, exactement. Ouais.
Et tu t'es mis à l'hélicoptère.
J'ai fait ma licence d'hélicoptère il y a un an. Enfin, j'ai fini le. Je voulais apprendre quelque chose qui était assez challenging.
Ouais.
Et de zéro, sur lequel j'avais aucune idée de comment ça se passait. Et c'est assez intéressant l'aviation, parce que il y a des capacités cognitives de gérer la radio, gérer la planification du vol, gérer plein de paramètres presque, on va dire, intellectuels, l'aérodynamique, les principes d'aéronamique, de physique, sur comment est-ce qu'un hélicoptère vole, etc., etc. Et après, il y a toute la partie un peu plus physique de piloter avec ses propres mains, ses propres bras. Il se trouve que l'hélicoptère, en plus, c'est aussi les jambes. Donc, c'est plein de sujets intéressants à apprendre. Et c'est vrai que c'était un beau moment où j'aime bien toujours justement apprendre des nouvelles choses. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux prendre que j'ai la chance de pouvoir faire et qui est à la fois intellectuel et physique, beaucoup plus physique que ce qu'on croit en fait. Et il se trouve qu'en plus, ici aux États-Unis, c'est assez simple d'apprendre ça.
D'accord.
Beaucoup plus simple au niveau des régulations qu'en Europe, ça coûte moins cher. Et donc il y avait un aéroport où je pouvais aller pour ma formation qui était pas trop loin. Et ils ont cette particularité ici qu'on peut survoler New York, ce qui est pas le cas par exemple à Paris.
C'est fou.
Et donc ça rend le projet un peu plus motivant.
J'adore les hélicos, moi. et tu sais quoi, je crois que je suis jamais monté dans un hélico en plus. Donc, mais je trouve ça fou, ça me fascine.
C'est une super machine.
C'est un super trip, ouais.
La physique des hélicoptères est assez intéressante. C'est complètement contre-intuitif par rapport aux avions. C'est pour ça que d'ailleurs ça a été développé après les avions, parce que c'est plus compliqué à développer. Il y a beaucoup de phénomènes aérodynamiques qu'ils ont un peu découverts, malheureusement, souvent avec beaucoup de larmes et beaucoup de sang. Et c'est des machines assez impressionnantes. Et à piloter, c'est intéressant parce que tous les membres sont impliqués. C'est des machines où il y a beaucoup de charges intellectuelles et physiques, et où c'est pas des machines qui se pilotent avec c'est pas des avions avec un copilote et un pilote. Donc c'est un beau challenge.
Si t'avais une chose que tu pourrais dire à Pierre Valade quand il sort de ses études, il arrive à New York, et à ce moment-là t'as l'occasion de te parler 10 minutes, une minute, et de te dire
je pense
truc.
Que je me serais dit, fais de la méditation.
Ouais.
Fais du sport, parce que souvent quand on quitte l'école, on fait plus de sport.
Ouais.
Il y a toujours un peu une phase, une dead zone où les gens sortent de l'école, de l'université et arrêtent le sport.
Mm-hmm.
Donc j'aurais dit, fais du sport, prends la méditation, et je pense que ça aurait été déjà deux trucs bien.
Ok. Où est-ce qu'on te suit, Pierre? Sur Twitter plutôt?
Ah non,
non,
je suis nulle part. Je suis plus sur Twitter, je suis
sur
plus
LinkedIn.
Sur Facebook. Non, je suis pas sur LinkedIn. Je suis plus actif sur LinkedIn.
Où est-ce que je l'ai vu ton post
sur Facebook?
Sur Facebook.
Mais c'est
fini.
C'est extrêmement rare.
Ouais.
Là, c'est un peu mon caractère message à caractère informatif sur tu fais référence au post sur l'ergonomie.
Ouais.
Moi, j'ai désactivé tout le monde sur Facebook, donc mon newsfeed est vide.
Mm-hmm.
Donc j'y vais plus. Je vais pas sur Instagram ni sur Twitter, et LinkedIn, je pense que j'utiliserai LinkedIn comme outil de recrutement dans les prochaines semaines, mais je passe zéro temps sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Encore une question d'optimisation de temps, et là où je pense que ça a le plus de valeur.
D'accord. Donc on te suit pas, quoi, en fait.
Non, on peut me contacter.
Ouais.
Je pense que c'est ça le plus intéressant, c'est de me contacter sur pierrevalade.com, par exemple, il y a un formulaire pour me contacter.
Ouais.
Et s'il y a des idées qui sont intéressantes et sur lesquelles je peux aider, ou des gens qui veulent travailler sur des projets futurs, avec plaisir. Mais regarder mes photos de vacances ou ce que je mange, ça a peu d'intérêt pour tout le monde, d'ailleurs pour vous, d'ailleurs même plus que pour moi. Mais le mieux, c'est de pouvoir. Je vais poster quelques billets de blog dans les prochaines semaines pour expliquer les projets sur lesquels je travaille.
Okay.
Après, la meilleure manière d'être en contact, c'est si des gens sont intéressés pour travailler sur ces idées-là.
D'accord. Donc, on peut quand même suivre peut-être sur LinkedIn, notamment ceux qui voudraient bosser sur des nouveaux projets.
Je posterai sur Twitter et sur LinkedIn, je pense, mais il faut pas s'attendre à mon dernier tweet doit dater d'il y a 2 ans. Et après, je mettrai à jour mon LinkedIn et j'expliquerai les projets, parce que ça sera important, et je participerai à des conférences et je serai plus public sur ce que je fais d'ici quelques semaines. Mais je suis pas très actif de manière générale sur les réseaux sociaux.
On peut avoir une mini preview de ce que ce sera, dans quel univers?
Non, enfin c'est pas vraiment encore c'est public, donc c'est assez binaire, soit ça l'est, soit ça l'est pas, et pour l'instant ça l'est pas, mais bientôt, avec plaisir.
Bon, cool, Pierre, je te remercie pour
merci Mathieu
temps. On a passé un très bon moment et je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci, et toi aussi.
Ciao.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous. d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.